Puisqu'il me revient l'honneur de présenter cette première table ronde, je voudrais commencer par vous remercier, Madame la Ministre, de votre présence qui marque le soutien que vous apportez à la recherche sur la justice. Je voulais aussi vous remercier, Monsieur le Président de l'École des hautes études en sciences sociales, de nous accueillir ici et de nous permettre, pour la deuxième année consécutive, et peut-être vous nous l'avez laissé entendre pour des années à venir, nous permettre de réunir des praticiens et des chercheurs et de soumettre, pour reprendre l'intitulé de notre journée, de soumettre la justice au regard, sous le regard des sciences sociales. Alors le thème de cette première table ronde est celui des victimes. C'est un thème évidemment bien connu puisque l'accroissement du rôle des victimes dans le procès pénal date d'au moins une trentaine d'années. Mais cette irruption de la victime dans le procès pénal continue de nous interroger tant elle a bouleversé l'économie du processus pénal qui s'est construit, vous l'avez rappelé Madame la Ministre, qui s'est construit pendant plusieurs siècles, sinon contre la victime, au moins sans elle, puisque l'infraction était considérée d'abord comme une atteinte à la loi avant que d'être une souffrance infligée à la victime. La prise en compte des victimes, c'est d'abord un devoir de solidarité. On le voit par les politiques qui se sont mises en place avec la création de la CIVI, de la SARVI, la généralisation des bureaux d'aide aux victimes ou encore le rôle absolument essentiel des associations dans l'accompagnement des victimes. Mais le rôle de la victime dans le processus pénal, victime individuelle ou victime collective, quand il y a des associations habilitées à se constituer partie civile, ce rôle qui n'a cessé, ce rôle ce devoir de solidarité est accompli de façon, je dirais, consensuelle, alors que ce consensus n'est pas le même lorsqu'il s'agit de l'intervention des victimes dans le processus pénal. Un certain nombre de personnes voudraient aujourd'hui voir ce rôle des victimes accru, avec notamment la possibilité, vous y avez fait allusion aussi, Madame la Ministre, de se constituer partie civile et de pouvoir faire appel des décisions de relax, y compris au-delà de la seule préservation des intérêts civils, ou pour d'autres aussi, de voir surgir l'action de groupe, non seulement en matière civile, mais aussi en matière pénale. Alors, c'est cette montée en puissance des victimes dans le champ pénal qu'il nous faut essayer de comprendre et d'interroger. Quelles en sont les causes, quels en sont les atouts et les limites? Cette montée en puissance est-elle inéluctable? Pourquoi la voie civile serait-elle, si elle l'est, insuffisante pour assurer à la fois réparation et reconnaissance? Et cette montée en puissance des victimes ne nous conduit-elle pas à repenser les finalités du procès pénal? Alors, pour traiter de ces questions, nous avons choisi d'examiner plus particulièrement des affaires de santé publique ou des affaires de grandes catastrophes de type accident ferroviaire et aérien, car l'ampleur des préjudices et l'émotion qu'ils suscitent, la multiplicité des victimes, la difficulté d'établir les responsabilités, la possibilité aussi d'une action collective sous forme d'association ou de collectif, permettent de cristalliser autour de ces affaires l'ensemble de nos interrogations. Alors, pour aborder ces problématiques, sont réunis autour de cette table deux sociologues, Nicolas Daudier et Emmanuel Filion, une juriste, Caroline Lacroix, et un philosophe, Emmanuel Cossia, ainsi que maître Thierry Dalmasso, avocat de la Défense, qui sera notre discutant et réagira à l'ensemble des interventions avant d'ouvrir le débat avec la salle. Alors, je vous remercie chacun de bien vouloir respecter strictement votre temps de travail, de parole qui est de 15 minutes afin que le dialogue avec la salle puisse être effectif. Nicolas Daudier, vous avez donc la parole en premier. Vous êtes sociologue, comme je viens de le dire, directeur de recherche à l'INSERM et directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous vous intéressez particulièrement à la sociologie de la santé et du monde médical, et vous avez notamment travaillé sur les collectifs des victimes dans l'affaire de l'hormone de croissance, et vous avez suivi en particulier les deux procès en première instance et en appel dans cette affaire de l'hormone de croissance. Et aujourd'hui, vous allez ouvrir cette table ronde en nous présentant le cadre du débat doctrinal sur la question de la place de la victime dans le procès pénal au travers des productions des juristes depuis les années 80 en France et aux États-Unis.
Donc, merci pour cette introduction. Je remercie les organisateurs de votre invitation, à tous de votre présence et en particulier à vous, Madame la Ministre. Depuis de nombreuses années, l'extension des prérogatives des victimes au procès pénal suscite de vifs débats aussi bien aux États-Unis qu'en France. Aux États-Unis, autour notamment de la mesure dite du Victim Impact Statement, qui a ouvert de nouvelles possibilités aux victimes de s'exprimer lors de l'audience pénale. En France, autour de l'extension de l'action civile en faveur d'associations et de groupements reconnus d'utilité publique, et autour de textes qui tendent à renforcer certaines prérogatives des victimes. Loi de janvier 1993 sur la procédure pénale, circulaire de 1998 sur l'aide aux victimes, loi de juin 2000 sur la présomption d'innocence et les droits des victimes, et vous l'avez rappelé, réforme pénale plus récente. À partir de l'examen du travail doctrinal entrepris dans ces deux pays depuis les années 1980, nous avons mis en évidence, dans une recherche menée en collaboration avec Jeannine Barbeau, le répertoire normatif avec lequel les juristes envisagent la place des victimes au procès pénal. Nous avons donc établi la carte des attentes normatives auxquelles les juristes font référence, ainsi que les arguments qu'ils mettent en avant pour afficher leurs divergences, tant sur la nature des attentes jugées pertinentes que sur la manière de les satisfaire. Tu peux passer. L'objectif est ici, pour les sciences sociales, d'ordonner en un tableau d'ensemble les différentes facettes d'un débat juridique complexe. Le sociologue se place à l'extérieur du travail doctrinal et cherche à clarifier ce qui réunit les juristes et en même temps ce qui les divise. Le sociologue ne dit pas ce que dit la doctrine ou ce qu'elle devrait dire, il dit « voici les bases sur lesquelles se structure l'espace des positions en présence ». Nous avons identifié deux types d'attentes, des attentes normatives partagées par les juristes et des attentes controversées parmi ceux-ci. S'il existe des attentes partagées par tous les juristes, il existe également entre eux des controverses importantes sur la manière de satisfaire chacune d'entre elles. C'est ainsi que le débat relatif à la place des victimes témoigne d'une attente partagée, bien évidemment, d'objectivité du jugement. Mais celui-ci s'est structuré autour de conceptions opposées de l'objectivité, entre d'un côté les partisans d'une objectivité restreinte, qui cherche pour rester objectif à maintenir les victimes plutôt à distance des institutions judiciaires, et de l'autre côté, les partisans d'une objectivité qu'on pourrait qualifier d'élargie, qui voient au contraire dans la présence des victimes ou des collectifs qui les représentent un atout possible pour un jugement plus objectif. Aux États-Unis, la montée de la place des victimes au pénal a ainsi conduit certains juristes à rappeler les exigences du modèle « rule of the law » qui vise l'application stricte, c'est-à-dire avec le minimum d'interprétation possible, des règles du droit au cas qui lui sont soumis. Dans ce modèle d'objectivité restreinte, la rationalité formelle qui doit prévaloir est supposée incompatible avec toute émotion. C'est une garantie supposée indispensable pour que les individus soient jugés de la même façon au regard du droit, un moyen de lutter contre l'arbitraire. La référence au modèle « rule of the law » a été au fondement de plusieurs opinions exprimées par des juges de la Cour suprême contre le « victim impact statement » et en faveur des recommandations faites aux jurés d'exclure de leurs décisions sentiments, empathie, passion, qu'il s'agisse d'ailleurs de sentiments à l'égard des victimes ou à l'égard des mises en cause. Contre ce modèle, des juristes ont proposé une réévaluation de la place des émotions, de l'empathie et de la narrativité dans le procès pénal. Ils ont développé une autre conception, que l'on pourrait dire élargie de l'objectivité. Selon eux, le modèle « rule of the law » ne s'appuie pas sur une base réaliste. Le travail du juge est nécessairement, qu'il le veuille ou non, influencé par les émotions. Il s'agit donc de mieux intégrer ces dimensions dans l'organisation des procès. Martin Nussbaum, philosophe, professeur de droit et d'éthique, schématise ainsi le travail du juge en le rapprochant, comme dans la théorie du spectateur impartial d'Adam Smith, de celui du lecteur de roman. Dans ce schéma, le juge peut éprouver par l'imagination les émotions des différents protagonistes du procès dans la complexité de leurs histoires, sans être pour autant personnellement concerné. Outre l'objectif du jugement, le débat autour de la place des victimes s'est construit autour de trois autres principes. L'équité du procès, opposant ceux qui souhaitent promouvoir l'équité en donnant plus de possibilités d'action aux victimes et ceux qui, au contraire, voudraient leur en soustraire pour les mêmes motifs. Autre principe, le juste dosage des souffrances induites par le procès pénal chez les mises en cause. Opposant cette fois-ci des juristes qui assument qu'une pression nouvelle s'exerce sur des mises en cause en raison d'une présence plus élargie des victimes et ceux qui sont attentifs à contenir cette pression à un niveau plus limité. Enfin, dernier principe, une articulation équilibrée entre l'action pénale et l'action politique. Autour de cette attente s'opposent ceux, parmi les juristes, qui voient dans le saisissement du pénal par les collectifs de victimes un chemin vers l'action politique et ceux qui s'inquiètent au contraire des dérives du politique associées à la montée des victimes comme collectif. Au-delà des attentes partagées, l'analyse fait émerger l'existence d'attentes controversées. En effet, dans le débat autour des victimes, une part du travail doctrinal porte notamment sur la pertinence de nouvelles finalités qui pourraient être associées au procès pénal. L'indemnisation des victimes, la finalité thérapeutique, entre guillemets, du procès, l'empowerment des victimes ou encore la finalité reconstructive ou restauratrice, comme vous l'avez mentionné, du procès, à la fois pour les mises en cause et pour les victimes. Les divergences entre juristes portent cette fois-ci sur la pertinence même de ces finalités. Certains voient dans l'adjonction de telle ou telle de ces finalités une source de confusion pour le pénal. D'autres y discernent au contraire une source d'enrichissement, voire même de sortie de crise du système pénal. Le débat autour des victimes apparaît donc, concernant ces finalités, comme un moment où la base normative commune des juristes est travaillée sans qu'un nouveau jeu d'attentes partagées en soit pour l'instant, se soit pour l'instant imposé. L'exercice de la comparaison entre la France et les États-Unis complète cette analyse par deux observations. Elle montre en premier lieu que, malgré les grandes différences au niveau des systèmes juridiques, les juristes examinent le procès pénal de part et d'autre de l'Atlantique au regard des mêmes attentes normatives. Il existe, à un certain niveau, un même fond normatif parmi ceux-ci. Deuxième observation, sur la base de ce fond normatif, les différences entre les systèmes juridiques, tant dans l'organisation générale du procès pénal que dans la nature des innovations qui ont été discutées depuis 30 ans, expliquent une grande part des variations observées entre les deux répertoires doctrinaux, états-uniens et français. Pour reprendre l'exemple des luttes autour de l'objectivité, ce qui a été problématisé aux États-Unis autour du Victim Impact Statement, c'est le face-à-face individualisé entre la victime et le juge, tandis qu'en France, le débat s'est organisé principalement autour du pouvoir conféré aux associations parties civiles. D'un côté, en effet, les juristes français ont souligné l'intérêt de confier à des acteurs extérieurs aux institutions judiciaires le soin de saisir les représentants de l'État de situation jugée anormale. Les collectifs de victimes pourraient ainsi, selon ces juristes, jouer un rôle pour pallier les difficultés rencontrées par le parquet en raison notamment de la complexification du droit pénal. Cette position a été relancée autour de plusieurs procès emblématiques des années 90 et 2000. Pour les rappeler, le procès Papon, l'affaire du sang contaminé, un certain nombre d'attentats terroristes ou encore l'affaire des disparus de Lyon. La mobilisation des victimes aurait permis, dans ces cas, selon les juristes concernés, de dépasser le manque d'engagement de la justice pénale. D'autres juristes, au contraire, ont fermement contesté les pressions que ces collectifs, soutenus par l'opinion publique et les médias, parfois, font peser sur les juges de l'extérieur, mais aussi à l'intérieur même de l'enceinte pénale. Pour conclure, quelques perspectives ou compléments d'enquête. On pourrait également concevoir d'articuler cette analyse du travail pénal avec une étude des différents acteurs qui contribuent à la politique pénale, pour comprendre quel est à eux aussi leur répertoire normatif. Et on peut enfin, et c'est ce que nous avons réalisé, étudier en contrepoint de ces débats doctrinaux la manière dont des professionnels du droit, des avocats, des magistrats, contribuent au réglage pratique, cette fois-ci, de la place des victimes pendant le procès, notamment à l'audience. Ce positionnement pratique vis-à-vis des victimes fait en effet partie intégrante, aujourd'hui, des pratiques et des stratégies judiciaires. Merci.
Merci, Monsieur Daudier, de cet exposé très dense et tout à fait éclairant qui nous a montré le point de vue, les attentes normatives dont on a vu qu'elles pouvaient être pour partie commune des juristes. Nous allons maintenant passer du côté des attentes des victimes, si on peut dire, au travers de deux exemples, celui d'une grande affaire sanitaire abordée du point de vue de la sociologie des mobilisations du droit, et ensuite au travers la gestion des grandes catastrophes aériennes et ferroviaires, approchée du point de vue non plus de la sociologie, mais du point de vue d'une juriste. Donc, pour commencer, Madame Emmanuelle Fillon, vous êtes sociologue, maître de conférence à la Maison des sciences sociales du handicap et à l'École des hautes études en santé publique. Vos travaux portent sur la mobilisation des victimes, des malades et des personnes handicapées, et sur les affaires sanitaires, ainsi que sur les politiques de santé publique. Vous avez en particulier publié un ouvrage qui s'intitule « À l'épreuve du sang contaminé pour une sociologie des affaires médicales ». Et c'est donc à vous pour une présentation de 15 minutes sur l'engagement judiciaire des victimes dans l'affaire du Distilbène.
Bien, je vous remercie beaucoup, ainsi que l'ensemble des organisateurs de ce colloque qui m'honore. Donc, dans cette communication, je vous propose d'observer sur la base d'un cas empirique si et comment des demandes individuelles en réparation peuvent constituer le cadre d'élaboration d'une cause collective. Alors, Didier Torny et moi-même avons réalisé une enquête sociologique sur l'engagement judiciaire des victimes du Distilbène en France. Au regard des communications de cette matinée, le Distilbène présente deux spécificités. Premièrement, davantage que les débats doctrinaux et conceptuels sur la place des victimes, je vais aborder ici davantage l'expérience concrète des tribunaux, des justiciables ordinaires et les effets en retour que produit le droit sur ces justiciables et leurs collectifs. Deuxièmement, les tribunaux qui sont mobilisés dans le cadre du Distilbène sont des tribunaux civils dont les procédures sont encore, à ce jour en tout cas, de part en part individuelles, ce qui ne fait pas a priori du civil le droit le mieux à même de porter les causes collectives, mais c'est ce qu'on va un petit peu interroger. Alors, pour commencer brièvement, je rappelle ce qu'est le Distilbène. En 1971, une revue médicale américaine a publié une étude qui montrait que des cancers gynécologiques à cellules claires, dits cancers ACC, observés chez des jeunes filles, étaient consécutifs à leur exposition au diéthylstilbestrol durant la grossesse de leur mère. Alors, le diéthylstilbestrol, qui est appelé aussi DES ou encore Distilbène, est la première hormone qui a été synthétisée en 1938. Ce médicament a été mis sur le marché en 1941 et il a été administré à des millions de femmes enceintes dans le but d'éviter des fausses couches. Outre ces cancers relativement rares chez leur descendance, la liste des effets potentiels ou avérés n'a cessé de s'allonger. Parmi les plus courants, l'utérus mal formé, dit en T, chez nombre de jeunes filles exposées in utero. Ces filles DES souffrent de nombreuses complications gynécologiques et obstétricales. Les populations touchées s'étendent aux fils DES également, qui souffrent notamment de malformations urogénitales. Et plus récemment, des effets ont également été observés sur la troisième génération. Du coup, depuis 40 ans, on a régulièrement des alertes, des demandes d'enquête qui sont lancées pour tenter d'informer sur les effets avérés et pour documenter sur les effets suspectés. Alors, l'histoire américaine du Distilbène, c'est une histoire de retard et d'absence de précaution jusqu'à sa contre-indication en 71. Or, l'histoire française a creusé ce déficit. On constate un décalage qui se répète sur trois plans. Sur le plan médical, vous voyez ici que les prescriptions françaises augmentent quand les prescriptions américaines diminuent. Et le Distilbène continue d'être prescrit aux femmes enceintes en France jusqu'en 1977. Sur le plan associatif, les Américaines s'organisent dès les années 70. Il faut attendre la fin des années 80 en France pour que les premières associations dédiées au Distilbène soient créées. Et enfin, sur le plan judiciaire, on a des procès qui débutent aux États-Unis dans les années 70, qui donnent vite lieu à des innovations jurisprudentielles, notamment un principe de market share liability inventé par le juge pour contraindre l'ensemble des laboratoires à indemniser les victimes au prorata de leur part de marché. En France, le premier recours est initié en 1991 et son jugement en première instance est prononcé en 2002. Alors, second effet moins attendu, les premiers recours sont des victoires pour les victimes. Et donc, du coup, d'autres procès vont suivre qui vont donner lieu à des innovations jurisprudentielles également dans le droit français, mais il y a un second effet donc, qui est moins attendu, c'est que ces victoires s'avèrent une voie de publicisation du Distilbène comme un problème de santé publique. Alors que les autorités sanitaires et médicales s'étaient jusque-là accordées pour considérer qu'il s'agissait d'un accident limité et contrôlé, du coup, les victimes du Distilbène sont devenues visibles comme groupe pouvant légitimement demander raison de son malheur. Or, pour rendre compte de ces mobilisations, nous avons adopté trois méthodes d'analyse. D'une part, celle de 80 décisions de justice rendues en cours d'appel et en cassation, celle des formes d'engagement spécifiques des trois associations dédiées au Distilbène à l'égard du judiciaire, enfin l'analyse de parcours biographiques d'environ 80 personnes touchées par le produit, en étant spécialement attentifs à leur conscience du droit et à l'expérience directe ou indirecte qu'ils ont eue de la justice. C'est un long parcours et très douloureux, explique une responsable associative qui a été l'une des premières à porter son cas devant les tribunaux. Alors, un premier constat s'est rapidement imposé lors de notre enquête, le faible nombre de recours engagés, estimé à environ 400. Or, le Distilbène a été prescrit en France à environ 200 000 femmes qui ont donné naissance à 160 000 enfants. Alors certes, toutes ces personnes exposées ne souffrent pas de préjudice, néanmoins, elles sont beaucoup plus nombreuses que les 400 requérants. Alors, c'est ici qu'apparaît la tension qu'on retrouve perpétuellement entre les dimensions individuelles et collectives des procès, car c'est en effet sur l'individu que repose la charge d'ester en justice, quand bien même l'action judiciaire, voire chacun des recours, peut ensuite être investi collectivement. Les filles DES n'osent pas, dit une autre responsable associative. De fait, nous avons identifié trois freins au recours aux justices. Le premier, qu'on retrouve des constats généraux sur la difficulté du recours au droit, pour tous ceux qui ne sont pas familiarisés avec l'univers de la justice et qui sont, comme le dit Galanter, des joueurs occasionnels. Les coûts matériels et symboliques de l'action en justice laissent donc dans l'ombre de la loi une part invisible mais conséquente de victimes. Deuxièmement, de façon plus spécifique, on constate une hiérarchisation des dommages du Distilbène, c'est-à-dire que les problèmes de santé sont évalués à l'aune des plus graves, à savoir les cancers ACC, qui sont aussi les dommages les plus spécifiques. Et les dommages qui sont moins graves, tels que l'infertilité ou les fausses couches, se retrouvent relativisés par rebond. Cette hiérarchisation, elle opère sur deux plans, sur un plan objectif, puisque les cancers ACC sont de fait plus faciles à porter devant les tribunaux, et sur un plan subjectif, les victimes des dommages moins graves estimant au final, entre guillemets, qu'elles ont eu de la chance. Le partage d'expériences au sein des associations et la publicisation des procès peut donc paradoxalement constituer parfois un frein à l'action judiciaire. Troisième type de frein, l'histoire familiale du distilben a pu empêcher l'expression d'une plainte du fait de l'implication des ascendants auxquels on a prescrit la molécule dans les dommages en cascade dont souffrent les générations suivantes. Malgré ces freins, on voit que l'action judiciaire est bien investie comme un combat collectif. « Je ne me bats pas pour moi », disent beaucoup de requérants qui revendiquent un usage militant du droit. Il s'agit pour eux d'obtenir des jurisprudences favorables, de rendre visible l'ensemble des victimes. Là, les avocats et les associations distilbène jouent un rôle également structurant. En organisant des manifestations de solidarité avec celles qui passent en audience ou qui reçoivent une décision du juge, des réunions d'information juridique, en analysant, en publicisant les décisions judiciaires, toutes actions qui font apparaître des destins communs parmi l'ensemble des personnes touchées et qui créent un effet d'entraînement et de massification des recours. Alors, au fil des procédures individuelles, un contentieux distilben s'est peu à peu constitué par accumulation de ces recours et par la création de jurisprudence. Les premiers cas traités par la justice ont en fait dessiné pour les victimes des chemins juridiques soit à emprunter, soit à éviter. Alors, la voie judiciaire massivement choisie, comme je vous le disais, était celle du civil. Il n'y a qu'une association, Orage, et quelques-uns de ses adhérents qui ont opté pour le pénal, mais on va dire dans une stratégie qu'on peut qualifier de « winning by losing ». Le but étant clairement moins d'obtenir des condamnations qu'elles savent improbables, plutôt, ce qu'elle vit, c'est d'ouvrir une instruction avec une ramification d'enquête, d'expertise, etc. À notre connaissance, aucune procédure dans le cadre du distilben n'a été non plus engagée au tribunal administratif, ce qui exonère la responsabilité de l'État, alors que le maintien de la prescription au-delà de 71 laissait ce champ ouvert. C'est aussi la responsabilité des médecins qui a été tenue à l'écart des recours. Mieux vaut prendre soin d'eux, explique un juriste dans l'enquête. Alors, les motifs sont stratégiques, mais on a pu constater aussi la répétition de formes d'indulgence à l'égard de médecins qui ont pu ignorer les dangers du distilben. Ce sont les laboratoires qui. Voilà une phrase qui est revenue de façon récurrente. Et l'imputation de responsabilité et les recours se sont donc exclusivement dirigés contre les deux laboratoires qui ont commercialisé la molécule en France. Or, l'expérience des expertises et des audiences a complètement conforté les victimes dans une représentation des laboratoires comme de pures entités économiques, dénuées de sens moral ainsi que d'un souci de santé publique. Mais ce sont aussi les juges qui ont consolidé la voie des recours contre les laboratoires sur la base du droit de la responsabilité des produits défectueux. En 1991, le tribunal a demandé une expertise médicale générale qui a conclu qu'UCB Pharma aurait dû avoir connaissance des dangers du distilben après la publication de 71 à la contre-indication américaine. Or, les juges ont préféré poser une obligation de vigilance des laboratoires, opératoire dès les premières alertes lancées dès les années 30. Et de fait, ils ont créé ainsi un cadre plus large de la responsabilité des industriels qui a été confirmé en cassation en 2006. On voit donc ici que la jurisprudence, non seulement produit du droit, mais aussi qu'elle reconfigure les collectifs de victimes qui sont étendus ici, quelle que soit l'année de leur naissance, avant ou après 71, et qu'elle a armé la mobilisation de ces victimes contre le capitalisme pharmaceutique. D'autres jurisprudences ont pu contribuer à l'unification des victimes et du contentieux distilben. Donc, l'expérience individuelle des victimes, elle doit être saisie aussi au prisme du travail d'unification du droit produit au fil des procès. Les juges ont ainsi admis des modalités d'administration de la preuve juridique moins drastiques que celles de la preuve scientifique pour établir la responsabilité de la molécule dans les cancers ACC et les utérus en T. C'est-à-dire que l'identification de ces pathologies dites désormais signatures entraîne une causalité systématique qui est imputée à la molécule. Les juges n'avaient d'abord indemnisé que les rares victimes qui possédaient encore les ordonnances de leur mère. Mais un arrêt de cassation en 2009 a renversé la charge de la preuve et à condition que la preuve soit faite du lien entre pathologie et distilbène, il appartient désormais au laboratoire de prouver qu'il n'est pas à l'origine du dommage, sans quoi les deux laboratoires sont condamnés in solidum à indemniser les victimes. Or, le travail d'unification du droit, il s'est opéré aussi par l'adoption de la part des juges de la nomenclature d'Antillac. Cette nomenclature a défini des micro-collectifs de victimes par ricochet autour de la victime princeps et elle établit des postes de préjudice, des barèmes d'indemnisation relativement stables pour chacune de ces victimes en dépit de la singularité des cas traités. Il n'en reste pas moins que, je cite, « un parcours comme ça, ça vous casse », ce que disent de nombreuses victimes. En effet, chacune doit faire la preuve de son exposition, ses pathologies, de la responsabilité du distilbène, se soumettre à des expertises individuelles qui restent absolument décisives pour toutes les pathologies multifactorielles. Alors, ce sont des opérations qui donnent lieu à de très nombreuses passes d'armes, contestations procédurales, qui sont parfois totalement absconses pour les profanes, mais qui exigent à chaque fois que la victime réitère son engagement judiciaire sur des durées longues. Au pénal, l'instruction et le procès permettent quand même des formes collectives de traitement des cas. Le procès pénal, en outre, est très ritualisé, ce qu'a montré notamment Nicolas Daudier, et les victimes et les accusés sont entendus, les décisions sont rendues de façon extrêmement solennelle devant l'ensemble des parties, rien de tel au civil. L'expérience judiciaire des victimes demeure donc très marquée par l'isolement, la fragmentation, l'incertitude, la perte de sens de leur action. Le travail de la justice, du fait de sa durée, de sa technicité, du traitement à distance des dossiers, des décisions qui sont rendues en différé, la multiplication des décisions, etc. Tout ceci, du point de vue de l'expérience des justiciables, accentue cette perte de sens. Le jour où vous parlerez français, hein, dit une requérante à son avocate. Du coup, le travail des associations est tout à fait essentiel pour rendre son intelligibilité au contentieux et en tirer des leçons politiques. Alors, outre la recherche d'une consolidation d'une jurisprudence en poursuivant sur la voie contentieuse, deux lignes d'action ont été ouvertes par les victimes du distilbène pour faire évoluer les droits des victimes. La première consiste à obtenir la création d'un fonds d'indemnisation des victimes de tous les médicaments, de telle sorte que la voie judiciaire ne soit plus la seule qui leur soit ouverte pour obtenir réparation. Sur ce point, les mobilisations n'ont pas encore trouvé les appuis politiques suffisants pour une traduction législative. La seconde voie consiste à rendre au plus accessible la voie judiciaire pour ces victimes. Et les victimes du distilbène et leur collectif se sont massivement engagées en faveur de l'adoption des actions de groupe dans le cadre du projet de loi de modernisation du système de santé qui a été voté en première lecture le mois dernier. On peut donc conclure sur la base de ce cas empirique qu'il y a bel et bien ici élaboration de causes collectives sur la base de demandes individuelles en réparation et que la justice, le travail du droit, contribue à créer de nouveaux collectifs en dépit du traitement individuel très singularisé des cas. Je vous remercie.
Merci beaucoup de cet exposé très précis et qui nous a montré comment, sous l'impulsion des collectifs de victimes, avait pu émerger ce que vous avez appelé un contentieux du distilbène, alors même qu'il n'y a pas eu de grand procès et que la voie pénale est demeurée tout à fait marginale. Donc on va voir à l'inverse, maintenant, dans les grandes catastrophes aériennes et ferroviaires, où là, au contraire, il y a eu une judiciarisation pénale que vous avez analysée, Madame Lacroix. Vous êtes donc maître de conférence en droit privé et sciences criminelles à l'Université de Haute-Alsace. Vous vous êtes intéressé particulièrement aux droits des victimes et aux droits processuels. Et vous venez de publier avec Marie-France Stanley-Feuerbach une recherche que vous avez réalisée avec le soutien du GIP sur la judiciarisation des grandes catastrophes, dans lesquelles vous proposez une approche comparée de la gestion de ces catastrophes en France et en Europe. Vous avez donc la parole pour nous présenter votre analyse de la place de la victime de ce point de vue-là pour 15 minutes.
Merci infiniment. Je suis très contente d'être là et de pouvoir effectivement vous présenter les conclusions de ce rapport que nous avons eu la chance de mener grâce au soutien de la mission Droit et Justice. Sachant qu'ici, je ne vais évidemment pas rappeler l'intégralité des conclusions de ce rapport, mais simplement essayer de l'envisager sous une perspective un peu différente, qui est sous la perspective de la place de la victime. Simplement, de manière liminaire, pour bien comprendre, le principe de cette recherche était d'envisager, de savoir si le phénomène de judiciarisation pénale, alors qu'on va traduire par un mot plus simple, de pénalisation des catastrophes, type accident aérien, ferroviaire, maritime, éventuellement catastrophe d'infrastructure, on pense à la catastrophe d'AZF à Toulouse, était un phénomène typiquement français. La soumission au juge pénal systématique de ce type d'événement était-elle une exception française ? Ou est-ce que les catastrophes qui se déroulaient dans les pays voisins étaient également soumises ou pas au juge pénal ? Alors, pour pouvoir mener une telle comparaison, il est toujours difficile de comparer des systèmes juridiques et de se livrer à une véritable analyse comparée. Nous avons fait le choix de partir des événements. Nous avons donc choisi pour chaque État, alors pas évidemment pour l'ensemble de l'Europe, c'était démesuré, mais pour l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Espagne, la Belgique et le Luxembourg, on va dire nos voisins, un exemple ou deux de catastrophes s'étant produites pour savoir de quelle manière le traitement judiciaire s'était déroulé et s'il y avait eu ou non saisine de la justice pénale, à défaut qu'il y ait un jugement pénal, puisque ce sont deux choses bien différentes. Alors, pour faire simple, dans toutes ces affaires d'accidents collectifs, en France, évidemment, c'est systématique. Un juge pénal est saisi. Le procureur, en général, est averti immédiatement de l'accident et dans les heures ou les jours qui suivent, une information judiciaire pour une enquête approfondie est ouverte. Pour la France, cette question fait l'objet de débats, autant que la place de la victime dans ces procès ou dans le procès pénal en général. Cette question de la pénalisation de ces accidents collectifs fait aussi débat, certains étant partisans de l'écartement du juge pénal, pour résumer, une position qui consisterait à dire que, dans le cas de tels événements, il faut évidemment indemniser les victimes, éventuellement par le biais de processus collectifs, puisqu'ici on a un véritable collectif par une unité de lieu, de temps et d'action, mais en revanche, ne pas saisir la justice pénale de telles affaires et laisser le soin aux enquêtes techniques, notamment menées par le bureau enquête, analyse et accident, de mener les enquêtes dans le sens d'une plus grande prévention, d'une plus grande sécurité pour l'avenir, mais qu'il n'y a point besoin de venir sanctionner les éventuelles erreurs, fautes qui auraient pu être à l'origine de cet accident. Alors, si en France, on marche sur un tel système, pour nos pays voisins aussi. L'étude a permis de mettre fin à ce qui était souvent argué à l'oral. Nous sommes les seuls à le faire, sans justification particulière de cette position. Donc, l'étude des catastrophes et du traitement judiciaire des catastrophes à l'étranger a permis, en réalité, de montrer que toutes les catastrophes en Europe, et au moins pour nos proches voisins, étaient traitées de manière similaire. Le juge pénal est saisi. Et une enquête judiciaire de nature pénale a systématiquement lieu. C'est le cas en Espagne, il suffit de penser pour les dernières grandes catastrophes, hein, l'accident de Saint-Jacques-de-Compostelle, où une enquête pénale est en cours, ou au naufrage du Costa Concordia, pour lequel le procès pénal est en cours. C'est le cas en Italie, là encore, les procès sont encore en cours, mais il y en a eu d'autres. C'est le cas en Allemagne, c'est le cas en Belgique ou au Luxembourg. Le point le plus difficile était sans doute le régime anglo-saxon, qui en général est bien différent de nos traditions romano-germaniques que nous partageons avec nos voisins. Et c'est tout, c'était l'exemple suprême donné par les partisans d'une dépénalisation des accidents collectifs pour nous dire qu'on pouvait faire autrement. Et donc surtout ne pas saisir le juge pénal. Et là, quelle ne fut pas notre surprise en regardant notamment l'accident ferroviaire de Paddington ou d'autres catastrophes, de constater que la justice pénale, entendue au sens large, avait pu être saisie de ces événements et prononcer des sanctions. Et au-delà de ces sanctions, nous avons constaté que la Grande-Bretagne fait le cheminement inverse des réflexions françaises. Alors, réflexion qui consiste à dire, peut-on dépénaliser en Grande-Bretagne, la question étant, on doit pénaliser comment? Et ces dernières années, hein, deux textes de loi ont même été votés sous la pression des lobbies de victimes de catastrophes. Ont été votés visant à une plus grande pénalisation de ces accidents et notamment sur la responsabilité des personnes morales lorsqu'elles sont impliquées. Donc réflexion et chemin inverse en Grande-Bretagne de pénalisation à l'heure où la France se pose la question de la dépénalisation. Alors, les victimes y tiennent au procès pénal en France de manière générale, indépendamment de savoir si elles ont une place dans ce procès. Nous avions dans cette étude demandé le concours d'un chercheur clinicien psychologue qui a mené une étude sur les victimes de catastrophes et notamment sur leur ressenti face à ce procès. Les conclusions, là aussi, ont été assez claires. Les victimes tiennent au processus de pénalisation. Et encore une fois, j'entends bien, hein, c'est différent de leur participation à ce processus. Elles tiennent à l'existence du procès pénal qui leur paraît le seul apte à répondre à la gravité des conséquences et à faire toute la vérité en toute transparence et impartialité sur ce qui s'est passé. Le juge pénal est, de ce point de vue-là, hein, mieux perçu que le juge civil et les règles du droit pénal et du procès pénal sont mieux perçues pour les victimes que les règles du procès civil. Au-delà de l'existence même d'un procès pour les victimes, il ressortait aussi de cette étude que leur participation à ce procès leur paraissait essentielle. Elles n'entendent pas être exclues du procès pénal. Alors, ici, leur participation au procès en cas d'accident collectif, hein, rejoint la problématique plus générale de la place de la victime dans le procès pénal et de l'éventuelle convergence du droit européen et du droit français. Alors, on va y raisonner de manière générale, parce que ça s'applique également aux accidents collectifs. Aborder la question de la place de ces victimes lors des procès, et notamment des procès collectifs, suppose quand même juste qu'on s'entende sur deux choses, sur une première chose, qui est le terme « victime ». Il y a deux manières pour un juriste d'entendre le terme « victime » et en réalité, la réponse de sa place diffère selon l'une ou l'autre de ses acceptations. D'abord, on peut entendre la victime de manière très large, c'est-à-dire ce qu'on appelle « escalité », comme étant la personne qui subit un préjudice du fait d'une infraction à la loi pénale. Et puis, on peut entendre la victime dans un sens beaucoup plus restrictif, qui est la partie civile, et dans ce cas-là, qui est la personne qui entend faire valoir des droits et avoir un véritable statut au sein du procès pénal. Toutes les victimes ne se constituent pas partie civile, pour autant, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas une place. Donc il faut entendre forcément le mot « victime » dans ces deux sens pour pouvoir répondre à la question de leur place. Pour s'en tenir à la France, aujourd'hui, évidemment, on l'a rappelé, hein, la victime a une place croissante dans le procès pénal, et j'allais dire dans les deux sens du mot « victime », à la fois « escalité » et évidemment en tant que partie civile. Et cette place qu'elle occupe aujourd'hui, elle est l'œuvre conjuguée à la fois de la jurisprudence, d'abord de la chambre criminelle, et on rappellera le célèbre centenaire arrêt Laurent Attalin, et aussi du juge constitutionnel aujourd'hui qui continue le travail de détermination de la place de la victime. Et on en voudra là encore hein, pour preuve les dernières décisions qui ont été rendues par le biais des questions prioritaires de constitutionnalité, et notamment pour en citer qu'une, l'admission par le Conseil constitutionnel du pourvoi des parties civiles devant la chambre criminelle, indépendamment même de la question de ses intérêts civils, ce qui n'était pas possible jusqu'alors. Le Conseil leur a ouvert la porte du pourvoi en cassation. Et puis, évidemment, c'est l'œuvre du législateur, cette place de la victime aujourd'hui. On l'a rappelé, hein, depuis ces 30 ou 20 dernières années, de multiples lois pénales sont intervenues pour renforcer cette place qui, aujourd'hui, hein, est une place qui est accordée à la victime jusqu'à l'exécution des peines. Qui démarre à l'enquête, cette place, et qui va jusqu'à la fin du procès pénal, du processus, jusqu'à l'exécution des peines. Alors, on l'a dit aussi, hein, cette place fait l'objet de beaucoup de discussions entre tenants de son inclusion ou de son exclusion, certains dénonçant pour l'exclusion une justice compassionnelle victimaire à l'excès. Alors, cette participation de plus en plus active des victimes en France, qu'on la conteste ou qu'on l'accompagne, peu importe, c'est une réalité. Et elle s'accompagne d'une autre dimension qui est une participation collective, mais cette fois-ci d'un point de vue procès pénal. Dans le cadre des accidents collectifs, les victimes se constituent sous forme d'associations, de collectifs, voire se structurent en fédérations, ces associations, et ces associations, comme les fédérations, entendent participer au procès pénal et donc trouver leur place, elles aussi, dans le procès pénal. Ça, c'est un phénomène, j'allais dire, typiquement français, pour lequel la convergence européenne n'existe pas vraiment. Autant on peut trouver une convergence relative sur la place individuelle de la victime au sein de l'Europe, autant on a une singularité, j'allais dire française, sur la place collective des victimes au sein du procès pénal. Juste en deux mots, pour respecter mon temps de parole, d'un point de vue individuel, lorsque on parle de l'action individuelle ou de la place individuelle de la victime, en Europe, on a plutôt une convergence. Alors, en précisant cependant que si c'est la victime escalité, de manière générale, on tend à un rapprochement, à une harmonisation des législations européennes sous l'impulsion depuis 10 ans du Conseil de l'Europe, mais surtout aujourd'hui de l'Union européenne, ce qui tend à rapprocher plus significativement nos législations, et la dernière preuve en date étant la directive victime adoptée en 2012, qui est en voie de transposition dans le projet de loi à l'heure actuelle, qui montre que le droit français était relativement en accord avec les attentes européennes, puisque le projet de loi montre hein, qu'on a peu de choses à transposer. De ce point de vue-là, le droit français était très protecteur de la place de la victime escalité. En revanche, si on a cette harmonisation, ce rapprochement européen, si on prend la victime dans le sens partie civile, donc titulaire de droit, partie, troisième acteur au procès véritable, ici on n'a pas de convergence du droit européen. L'analyse comparée hein, des jurisprudences montre que chaque législation des États a sa propre conception de la place de la victime en tant que partie civile et qu'ici il n'y a pas de convergence et que le droit européen ne pourra pas tendre à harmoniser ou à rapprocher ces législations. Ici, lorsque l'on parle des parties, des acteurs au procès véritable, avec titulaire de droit, il s'agit de choix de souveraineté des États, de souveraineté institutionnelle, procédurale, et ça fait partie de l'autonomie, des principes de l'autonomie décidés par l'Union européenne sur lesquels elle ne peut pas influer. Donc, une convergence relative, oui, pour les droits des victimes, est-ce qualité, leur prise en charge, des droits procéduraux liés à la traduction des actes, liés à leur information, surtout sur les décisions judiciaires. Pas de convergence, en revanche, pour les parties civiles. Pour l'action collective, pour la place collective, ici, le constat est plus net, une singularité française, mais peut-être un modèle à exporter, en réalité, pour une future convergence. La place collective des victimes a été légitimée par le législateur. C'est d'abord un phénomène ad hoc, les victimes se regroupent, d'abord elles y trouvent soutien, écoutent entre elles, mais ça leur paraissait insuffisant, et elles entendaient investir le procès pénal collectivement, sachant que cette place collective ne supplée pas la place individuelle, ce qui pourrait être imaginé. Cette démarche a été légitimée par le législateur français depuis 1995. On a un article dans le code de procédure pénale qui, si les associations sont agréées par le ministère de la Justice, leur donne la possibilité de se constituer partie civile au procès pénal, ce qu'elles font de manière systématique. Et donc, on constate ce phénomène d'action collective des victimes dans le cadre des accidents collectifs, des événements collectif. C'est un phénomène typiquement français, là aussi, qui découle des choix de législation des pays étrangers. Vous imaginez bien que dans les législations qui interdisent la constitution de parties civiles pour les victimes individuelles, a fortiori, les groupements ne sont pas autorisés à se constituer partie civile. On trouve seulement deux autres États qui, comme la France, peuvent laisser une place collective aux victimes. Il s'agit de l'Italie et de l'Espagne, qui sont sans doute les pays qui nous ressemblent le plus, mais avec moins d'efficacité que la législation française, et notamment si je prends le cas de l'Italie et de l'affaire du Costa Concordia. Un collectif de victimes avait voulu se constituer partie civile dans le procès du Costa Concordia. La justice italienne leur a opposé une fin d'irrecevabilité, simplement parce qu'en droit italien, pour se constituer, une association doit exister avant l'accident, et qu'évidemment, le collectif des victimes du Costa Concordia s'est constitué après. Vous le serez en tant que voyageur, faites une association de victimes potentielles avant pour pouvoir agir en droit italien. Évidemment, le système français, de ce point de vue-là, est beaucoup plus efficace, et la place offerte aux victimes collectivement est beaucoup plus efficace, puisqu'on agrée les associations ad hoc après l'événement. Mais simplement, peut-être que cette solution, cette place collective qui peut-être perturberait moins, et c'est une discussion que j'ai souvent avec les avocats qui interviennent dans ce type de procès, la place collective des victimes dans ce type d'événement serait sans doute plus souhaitable, plus apaisée que la multiplication des places individuelles des victimes qui posent des problèmes organisationnels, évidemment, aux juridictions. Accueillir 300, 500, 600 parties civiles, c'est extrêmement compliqué et qui ne laisse pas de place, de toute façon, pour une parole individuelle lors de ce procès. Peut-être que cette place, au contraire, pour tenir compte de la dimension collective, devrait être collective et exclusivement collective, en remplacement, justement, de cette place individuelle. Mais c'est un chemin qui reste long à faire et qui rejoint d'une manière ou d'une autre la place que l'on entend laisser à la victime, que ça soit individuellement ou collectivement. Je vous remercie.
Ça doit être bon. Je vous remercie, Madame Lacroix, pour cet exposé extrêmement riche. Vous nous avez dit que cette spécificité française, à savoir à la fois la tripartition du procès pénal et puis l'investissement collectif du procès pénal, investissement collectif qui pourrait aller encore plus loin, et dont vous nous avez dit qu'il pouvait constituer un modèle peut-être pour le reste de l'Europe. Alors je ne sais pas ce qu'on en pensera de l'autre côté de la barre, si je puis dire, du côté de la défense, mais avant, je vous propose, avant de revenir sur l'arène judiciaire, je vous propose de donner la parole à Monsieur Cochia, et donc de mettre en perspective historique et philosophique cette montée en puissance de la place de la victime. Donc, Monsieur Emmanuel Cochia, vous êtes docteur en philosophie médiévale à l'Université de Florence, et vous êtes membre du Centre d'études des normes juridiques à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous avez donc la parole pour 15 minutes pour une histoire du concept de victime entre sacrifice et vengeance.
Tracer l'histoire du concept de victime et de son rapport au droit serait la tâche d'une vie entière. Victime à mon tour de la tyrannie du temps, je me limiterai à énoncer une série de remarques très schématiques. Je tâcherai tout d'abord de démontrer qu'il y a un lien direct et réciproque entre la place qu'un système juridique accorde à l'idée des victimes et l'usage que ce même système fait de la narration en tant qu'institut et technique spécifiquement juridique. Ces liens sont en premier lieu un fait historique, une évidence documentaire. Pour ne faire qu'un exemple tiré de l'Antiquité tardive, c'est ce qu'on peut constater dans les droits propres au contexte du judaïsme du Deuxième Temple et du christianisme des origines. Or, je voudrais suggérer, j'ai dit suggérer car il me faudrait plus d'une journée pour pouvoir les démontrer, je voudrais suggérer donc que cette liaison donc entre place de la victime et narration est une nécessité structurelle qui trouve ses racines dans les concepts même de victime. Si des systèmes juridiques arrivent à mettre au centre de leur discours la victime ou les dédiées victimes, c'est à cause de et grâce aux moyens narratifs en tant que technique juridique spécifique. Au moins pour ce qui concerne les systèmes juridiques de l'Antiquité tardive de la Méditerranée, c'est seulement grâce aux récits et dans les récits que la victime a sa place dans les droits. Commençons par les faits. Les systèmes juridiques juifs et celui chrétien donnent à la notion des victimes et à l'expérience qui lui correspond une place éminente. Avant de détailler ces constats, permettez-moi de formuler quelques précisions. À la différence de ce que très souvent les manuels universitaires s'obstinent encore à enseigner, le droit n'est pas né à Rome. Preuve en est le fait que l'une des expériences juridiques qui ont marqué le plus profondément notre rapport à la loi est de fait celle qui s'est cristallisée tout d'abord dans les Tanakhs juifs et ensuite dans la Bible chrétienne. On oublie que ce sont ces deux documents qui ont introduit en Occident l'idée même des codifications juridiques, celle de livres de droit, bien avant les exemples bien connus de la Rome impériale. Le Tanakh est pour le judaïsme de l'Antiquité tardive non seulement code juridique, mais les plus anciens codes de loi qui a jamais existé. Celui qui, comme écrit Flavius Joseph, a, je cite, « ouvert la voie de la vie légale à tout autre peuple ». À une époque, il continue, où même les mots « loi »,« nomos » n'existaient pas en grec. Bon, les Tanakh n'est pas simplement les plus anciens codes des lois, il est l'exemple le plus parfait des législations. Et or, selon l'autoconscience de la culture juridique de l'époque, cette perfection relève de la capacité d'employer non seulement les préceptes, la règle, mais aussi et surtout la narration en tant que technique normative spécifique. À la différence des législateurs qui, comme l'a dit un texte du 1er siècle de notre ère, prescrivent, je cite, « dépouillés et sans fardes », qui, à leurs yeux, étaient considérés comme justes, en s'efforçant d'établir la liste des choses à faire et à ne pas faire, et de fixer les peines pour les contrevenants, fin de citation, Moïse, les législateurs des Juifs, encore, je cite, estimant qu'enjoindre sans encourager signifie s'adresser non à des hommes libres mais à des esclaves, il a préféré dans ses ordres et dans ses interdictions suggérer et encourager plutôt que commander, s'efforçant d'accompagner d'introductions et des conclusions, bref de récits, la plupart des instructions indispensables qu'il donne pour incliner par consentement plutôt que par violence. Fin des citations. Notre premier point sera celui-là. Les systèmes juridiques juifs, qui est l'une des sources de notre expérience de la loi, fait de la narration non seulement une technique spécifiquement normative, mais celle qui permet au droit d'atteindre sa perfection et son emprise sur la réalité sociale. Deuxième point. Le christianisme a lui-même affirmé la nature juridique du Tanakh en reconnaissant en ses textes l'ancien contrat, l'Ancien Testament, Palaya Diatake, auquel il a rajouté un nouveau contrat, les Nouveaux Testaments. Le christianisme est de fait les fruits d'une réforme normative, juridique et non religieuse du judaïsme. S'il a voulu se différencier du judaïsme, ce n'est pas pour remplacer les dieux de l'ancien contrat avec un autre dieu, mais pour changer la forme et la nature du contrat, du lien juridique entre la communauté et cette même divinité. En effet, les Nouveaux Testaments mettent en scène un Messie qui ne parle pas d'un autre dieu, mais vient apporter une nouvelle loi, qui est inédite dans son mode d'être comme dans son rapport à l'existence humaine. Or, les caractères novateurs et révolutionnaires de cette lex nova, de cette nouvelle loi, se manifestent surtout dans sa forme narrative. Au lieu de s'exprimer sous la forme du commandement et d'énoncer une liste de préceptes, elle se présente comme les récits de la vie du séjour terrestre de ce Dieu devenu homme. La loi est surtout narration. Mieux, elle prend la forme des quatre biographies différent de ce Dieu. Or, voilà un point décisif pour nous. Ces narrations, ce sont l'histoire d'une victime. Cela pourrait paraître banal. L'Ancien Testament, le Tanakh, est aussi plein d'histoires des victimes. Mais dans ces nouveaux codes des lois, dans cette loi qui fait de la narration son registre rhétorique principal, sa logique normative privilégiée, l'histoire des victimes n'est pas un simple anecdote ou un épisode. L'histoire que le droit raconte, c'est l'histoire d'une victime. Et la victime en question n'est pas l'une des comparses, l'une des comparses, il est le personnage principal. Ce qui plus est, cette victime est la divinité elle-même. C'est Dieu et non l'homme qui occupe cette place diégétique. Ce deux faits, tout d'abord le choix de la narration comme technique juridique privilégiée, donc le fait que la logique juridique devient une logique diégétique, et les choix de consacrer à la narration à l'histoire d'une victime, au point de faire de Dieu la victime par excellence, sont intimement liés. Voilà notre thèse. Pourquoi les droits ont besoin de narration et pourquoi, lorsqu'il devient une narration, c'est fait discours sur la victime, savoir sur la victime. Je serais obligé, encore une fois, à être cruellement bref. Bon, tout d'abord, qu'est-ce que cela veut dire « victime » ici ? Et pourquoi les droits devraient s'occuper d'une victime ? Pour répondre à cette question, juste quelques précisions, les mots « victime » viennent du langage sacrificiel. Alors, « victima », c'est la nourriture de Dieu, l'offrande de Dieu, ça vient de « victa », c'est-à-dire « lié ». Il faudra peut-être mieux s'exprimer et dire que « victime », c'est une catégorie du droit sacrificiel, car les sacrifices, à la différence de ce que l'école durkheimienne a toujours refoulé, n'est pas simplement un acte social ou religieux, c'est, comme tout rite, l'objet d'une législation extrêmement détaillée et paradoxale qui concerne la relation avec la divinité. Paradoxale, car les sacrifices sont la figure d'un crime légitime, d'un tort, en quelque sorte, légitimé par les droits. Et la victime est la figure paradoxale d'un sujet qui a subi un tort que le droit ne doit pas ou ne peut pas réparer. La victime est donc le lieu d'un double paradoxe juridique. D'un côté, celui d'un droit qui a besoin d'un tort, d'une injustice pour s'affirmer, pour exister, ou si vous voulez, d'un rapport à l'objet du droit, c'est-à-dire le Dieu qui a besoin de passer par un crime pour s'affirmer, et de l'autre côté, celui d'un tort, donc d'une injustice, qui excède le droit. Or, dans les récits néo-testamentaires, la divinité est victime au sens technique du terme, car il a subi un tort légitime. C'est à travers un procès, comme vous savez, que le Dieu, Jésus, est condamné. Un juste procès, et sa mise à mort est d'une certaine manière aussi commanditée par Dieu lui-même. Mais la scène sacrificielle classique ici est inversée, car les sacrifices n'est pas l'injustice dont la divinité a besoin pour affirmer son empire juridique sur la réalité sociale. Les sacrifices, c'est l'injustice dont la divinité est, pardonnez-moi les jeux de mots, la victime. Or, l'on pourrait honorer les anciens maîtres de cette maison et, tout en appliquant au récit et donc au mythe du droit chrétien les méthodes d'analyse que Lévi-Strauss appliquait au mythe amérindien, dire que mettre Dieu en position de victime signifie produire ce que Lévi-Strauss justement aurait appelé une transformation de la logique juridico-diégétique juive. Pour se limiter à parler du bon français, il suffirait de remarquer que ce choix diégétique produit un véritable court-circuit normatif. Victime, ici, c'est les dieux, c'est-à-dire les mêmes sujets qui, selon ce code, a créé les mondes et la loi de ces mondes, et les mêmes sujets, surtout, qui, à la fin de l'histoire, en tant que juge, dans les jugements derniers, jugera tous les hommes. Être victime est donc les juges suprêmes et les législateurs originaires. Donc celui qui fait les droits et qui l'applique est maintenant l'objet de l'injustice légitime, d'une injustice qui ne peut pas être réparée ou qui les droits ne veulent pas réparer avec ses moyens classiques. Justice et injustice arrivent donc d'une certaine manière à coïncider, mais pas dans le sens que les droits seraient les lieux de l'injustice. Plutôt, les droits soignent l'injustice sans passer par les systèmes de la sanction, de la punition, de la vengeance rituelle. Dieu ne punit pas les coupables du tort, de la mise à mort de son fils, et pourtant les récits permettent de montrer que ce tort, cette injustice a eu lieu. Les récits sont ici donc indispensables pour parler d'une injustice qu'on veut pas qui ne peut pas devenir l'objet d'une action injustice. Sa fonction est celle de montrer que les droits arrivent à gérer, à manier l'injustice dans une manière, pour ainsi dire, extra-processuelle, soi-disant non juridique ou préjuridique. Et voici, et pardonnez-moi la vitesse et la brachylogie, la victime est le signe d'un tort, d'une injustice que le droit doit gérer en dehors de ses moyens classiques. Il me semble, et je viens en conclusion, que les débats contemporains arrive à des conclusions semblables. On parle de victime lorsqu'on veut désigner un tort, une injustice que le droit ne veut surtout pas refouler ou nier, sans pourtant pouvoir la traiter de manière classique, à travers une action de justice au sens technique du terme. Et l'espace de la victime dans les droits est aujourd'hui aussi souvent celui de la narration, celui d'un storytelling dont la valeur n'est pas littéraire ou rhétorique, mais de quelque manière juridique. Alors, les conclusions. Souligner la continuité entre l'expérience et la catégorisation juridique de la victime du christianisme ancien et du judaïsme et de la modernité ne signifie surtout pas que les concepts juridiques modernes seraient une sécularisation des concepts théologiques ou que les discours juridiques contemporains sur la victime auraient une origine chrétienne. L'origine dans les droits, c'est la vie, ce n'est pas l'histoire. Et l'expérience de la victime du tort qui excède le droit est trop universelle et trop banale pour être quelque chose de propre à une culture ou à une religion spécifique. Ce qui, au contraire, relève de ce petit excursus historique, c'est plutôt l'évidence que si l'espace de la victime est les récits, ce n'est pas pour des raisons psychologiques, mais pour ainsi dire pour des raisons techniques, structurales. Si c'est à travers les récits ou les storytelling que les droits aujourd'hui encore, parfois, donne un espace aux victimes, ce n'est pas par compensation, ce n'est pas pour faire semblant que les victimes aient une place dans la scène du droit, de manière compensatoire. On apprend à un effet, ou j'espère d'avoir montré un effet, que la victime n'est pas en plus non plus une catégorie sociologique ou psychologique, c'est une catégorie juridique qui désigne les torts ou l'injustice que les droits ne veulent pas ou ne peuvent pas faire objet d'une action en justice, d'une procédure spécifique. C'est l'injustice pour laquelle la réparation s'est faite à travers la narration et non à travers un procès. Et les récits n'est pas un moyen extra-juridique, c'est l'une des techniques des nombreux systèmes juridiques, comment dans les passés ont employé. Et les moyens de faire justice là où les autres opérations du droit n'y arrivent pas. Elle est l'espace d'un droit hors de la règle, en dehors de la règle et du commandement. C'est cet espace, me semble-t-il, que le droit aujourd'hui encore a tout l'intérêt à développer pour pouvoir arriver à produire ou peut-être à saisir une idée de justice, outre qu'est injustice, extra-procédurale. Merci.
Qui nous a plongé aux origines du christianisme et qui nous a peut-être permis, même si je pense qu'on aura tous beaucoup d'intérêt à relire avec beaucoup de précision votre exposé, mais qui nous a permis un peu de toucher du doigt le paradoxe de la figure de la victime et la place aussi de la narration qui est au cœur de notre débat sur le procès pénal. Puisque le procès pénal, c'est aussi un espace qui permet la narration pour la victime. Ça m'amène à introduire maintenant notre discutant, Maître Dalmasso. Vous êtes avocat, spécialiste du droit pénal économique et financier, et vous avez écrit notamment un ouvrage sur la responsabilité des personnes morales. Vous êtes récemment intervenu dans plusieurs affaires, mais en particulier, je vais en citer deux, l'affaire de la passerelle du Queen Mary 2, où vous étiez l'avocat d'Endel, le constructeur de la passerelle. Et vous êtes aussi intervenu dans l'affaire du crash du Concorde, où vous étiez l'avocat du responsable du programme Concorde chez Aérospatial. Il vous revient de réagir à l'ensemble de ces interventions et de nous dire comment vous percevez, vous, du point de vue de la défense, le rôle croissant de la victime dans le procès pénal.
Merci, madame. Madame la ministre, monsieur le président, mesdames, messieurs. Je vous préviens, monsieur, tout de suite, je serai beaucoup plus prosaïque que vous, mais votre exposé était absolument remarquable. Comme le disait madame Lacroix à l'instant, il y a des partisans de l'écartement du juge pénal pour indemniser les victimes. Je suis de ceux-là. Je pense que le juge pénal n'a pas pour vocation d'indemniser les victimes, voire même de prêter l'oreille à ces victimes, et loin de moi l'envie de contester leurs droits, mais ce droit n'est pas du même ordre que le droit des prévenus, qui ont aussi des droits, et que le droit pénal, que le juge pénal doit avant tout juger. À cet égard, il y a une évolution tout à fait symptomatique. J'ai 30 ans de barre, c'est pas énorme, mais ça commence à compter un petit peu. Et je me souviens qu'à une époque, il y a 30 ans, la partie civile, son avocat, balbutiait du bout des lèvres, venait au procès pénal pour obtenir réparation. C'était là sa vocation et ça reste sa vocation. Elle venait appuyer une action civile qui, disait la Cour de cassation, et elle le dit encore, n'est que l'accessoire au pénal de l'action publique. Et de plus en plus, on a assisté à des développements. Enfin, certains de mes confrères, certains avocats, des parties civiles, se sentant complètement admis ou de plus en plus admis au procès pénal, se sont mis à développer la faute, l'infraction commise par le prévenu, l'autre côté de la barre, et se sont pris un jeu qui n'était pas vraiment le leur. Il n'était plus question à ce moment-là de réparation, d'indemnisation, mais de jouer ce qu'on a appelé, suivant la formule, les procureurs en second. Et là, ça ne va plus. Et ça ne va plus, et ça va moins encore lorsqu'on raisonne en termes de catastrophe de procès collectif. Vous l'avez dit, madame, comme le crash du Concorde ou la passerelle du Queen Mary, je veux prendre aussi ce procès dans lequel j'étais il y a un an, l'autocar d'Alain. Je vous souvenez de cette classe verte de 5e qui s'est retrouvée bloquée sur un passage à niveau, hélas, et une boucherie effroyable. Alors, ce n'est plus un procureur en second que nous avons, auquel nous sommes confrontés, c'est 10, 20, 60 procureurs en second, avec, et ça n'est pas du tout une vue de l'esprit, quantitativement, lorsque vous séparerez l'audience, lorsque vous attribuerez des moments d'audience à chacun, mathématiquement, statistiquement, vous verrez très vite que on n'est plus là pour l'action publique, ce qui est un comble. Mais en termes de temps passé, d'occupation de l'audience, l'audience est complètement marquée par les parties civiles, à commencer par, évidemment, l'émotionnel. Et je dis que c'est un comble, car par là, on assiste à une sorte de dévoiement du droit pénal, du juge pénal. Le juge pénal, revenons aux fondamentaux. Il est là pourquoi ? Il est là pour constater le trouble à l'ordre public. Il est là pour infliger une peine, une sanction. Et cette sanction, elle est fonction de la gravité de la faute et certainement pas de l'ampleur du dommage. Mais lorsque vous êtes confronté, comme je le disais à l'instant, à 50 ou 60 procureurs en second qui viennent réclamer, passez-moi l'expression, elle n'est pas belle, des têtes, ça n'est plus du tout la même chose. Ça n'est plus du tout la même chose. Voilà pourquoi je voudrais que l'on dépassionne ces débats. Je vais prendre au travers de trois exemples et rapidement l'histoire du Concorde, le crash du Concorde, dans lequel j'ai eu le privilège de défendre le directeur du programme Concorde, Henri Perrier, aujourd'hui décédé, la passerelle du Queen Mary et Alain, mais je les développerai en même temps, car ils sont un peu, ils sont très proches. Le procès du Concorde, c'est très simple. Et je vais rejoindre un peu, je vais donner une certaine coloration au propos de Madame Lacroix, par la force des choses. Le procès Concorde, crash du Concorde, c'est un avion, un aéronef affrété par des Allemands, essentiellement. Crash du Concorde, que des victimes, bien sûr, pas de rescapés. Comment s'est présenté ce procès ? D'abord, les victimes, ou plus exactement les ayants droit des victimes, ne se sont pas constituées partie civile. Elles ont été indemnisées immédiatement par un système d'indemnisation dit mid-atlantique. On s'est dit, parce que des procès commençaient à fleurir aux États-Unis, il va y avoir des procès aux États-Unis, procès civils, procès en France, on ne va plus en sortir, faisons le ménage. Réunissons toutes ces victimes et proposons-leur une indemnisation mid-atlantique, c'est-à-dire ce qu'elles seraient susceptibles d'obtenir aux États-Unis, ce qu'elles seraient susceptibles d'obtenir en France. On coupe la poire en deux, on vous le donne. Et Dieu merci, ce système d'indemnisation a eu beaucoup de vertus. C'est que aucun des ayants droit des victimes allemandes, je le redis, alors il y a peut-être une question de mentalité, je crois qu'il y a plus une question de système juridique, n'ont pas conçu un seul instant de se présenter au procès pénal Concorde. Comme partie civile, nous avons eu, partie civile donc faisant valoir leur droit de victime et de partie au procès pénal, la femme du commandant de bord, le frère du steward français, et le syndicat national des pilotes de ligne, le SNPL, le CHSCT, etc. Bref, des débats très sereins, d'où la passion était exclue, mais je le dis dans le bon sens du terme, le drame, on n'a pas oublié les enjeux de cette catastrophe. Mais chacun a pu s'exprimer comme il l'a voulu et au demeurant dans des débats assez techniques parce que il n'y a pas ce type de procès sans des débats techniques. Et en l'occurrence, il y a eu des passes d'armes mémorables entre le bureau d'enquête analyse et les experts judiciaires, chacun prétendant avoir la primeur ou la suprématie sur l'autre. Voilà ce qu'on peut en dire. Dans le procès de la passerelle dite du Queen Mary 2 et du procès à linge, d'une part, j'observe que les victimes n'ont à aucun moment, et les parties civiles, été indemnisées. Alors là, dans la passerelle du Queen Mary 2, dans ce dossier, il y a eu un... Manifestement, enfin, les avocats n'ont pas bien joué leur rôle, ou plus exactement, ils n'ont pas voulu. L'indemnisation qui leur a été proposée, et des structures, notamment sous l'égide de la chancellerie, ont été mises en place, et très curieusement, personne n'a accepté le système. Pourquoi ? Il s'est avéré, et tout simplement, qu'ils ne voulaient pas des tables d'indemnisation de Rennes comme référence à leur indemnisation. Ils attendaient beaucoup plus, et ils ont laissé leur avocat demander plus d'indemnisation. Et voilà comment ces victimes, ces parties, n'ont été indemnisées que X temps plus tard, je crois que c'est 7 ans, et pourtant la durée du procès a été relativement courte par rapport à Concorde, qui a duré à peu près 10 ans. Une ambiance, je le disais tout à l'heure, toute chargée d'émotions, qui commence avec le rapport du président, somme toute tout à fait normal, le rapport sur l'affaire, affaire complexe, mais là une chose beaucoup plus curieuse, la parole est donnée à un représentant des parties civiles pour s'exprimer ex cathedra, liminairement, comme ça, et pour donner le ton, en quelque sorte. Non, vous prévenus, accusés, vous attendrez votre tour. Je me souviens que nous avons même tenté de dire quelque chose pour les victimes, pour leur dire que nous n'étions pas du tout insensibles, comme elles pourraient le croire, à leur sort. Nous n'avons pas été autorisés à le faire, et au détriment de ce discours des parties civiles. Lorsque, dans le procès à linge, nous avons été condamnés et seules les personnes morales étaient poursuivies, Dieu merci. Dans le dossier du Queen Mary, seules les personnes morales ont été condamnées et les personnes physiques ont été toutes relaxées. Un tollé absolument incroyable. Une séance dite de caillassage, pour ne pas dire plus. Nous avons dû sortir sous la protection des policiers qui étaient là, des gendarmes, et du président, nous risquions vraiment pour notre intégrité, je le dis. Pourquoi ? On retrouve là un effet de l'émotion, de la passion. On était venu, nous disait-on, pour connaître la vérité. C'est souvent un argument des parties civiles. Nous venons au procès connaître la vérité. Que l'on m'explique. Et il y a eu une instruction avant, elles ont un dossier complet. Elles ont un dossier complet dans les mains. Elles l'ont, la vérité. Et d'expérience. Il y a très peu de choses, très peu d'aveux. On ne voit pas de quelle sorte ils seraient ces aveux donnés par les prévenus à la barre sur des débats plutôt techniques. On n'est pas dans un procès d'assises traditionnel. J'aurais dû le préciser, je me préoccupe plutôt des procès en matière de délit non intentionnel et non volontaire, mais on ne voit pas d'où la vérité va sortir sur ces sujets-là. Donc... encore une fois, l'argument ne me paraît pas très bon et surtout, ces victimes ne sont pas prêtes à tout entendre. Et quand vous prétendez justement être innocent, n'avoir pas fait ça, dans la salle, vous avez des huées. Ça n'est pas une bonne justice, ça n'est pas de bonne justice, ça n'est pas assurer la sérénité des débats. Voilà ce que je voulais dire. Alors sur les solutions, maintenant très rapidement, ça, elles ne manquent pas. Vous en avez suggéré une, je ne suis pas toujours... Contre vous, la preuve, vous avez dit, et si on collectivisait finalement, si on laissait à des institutions regroupant des victimes le soin de parler en leur nom. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Pourquoi ? La FENVAC aussi était au procès Concorde, j'ai oublié de la nommer, de même qu'elle était au procès du Queen Mary. La FENVAC s'est très bien exprimée, elle s'est exprimée surtout, elle a su transmettre, encore une fois, une certaine émotion, mais avec le recul nécessaire, le recul suffisant pour que l'audience ne soit pas complètement absorbée par cela. Il y a d'autres solutions. Une victime indemnisée peut être une... Alors, reste victime, mais n'a plus le droit de se constituer partie civile et de faire valoir ses droits de partie à l'audience. Tout ça peut peut-être vous choquer un peu. J'en ai terminé là-dessus avec cette considération. Imaginez que vous avez, allez, je prends un nombre relativement modeste de victimes. Vous avez 15 parties civiles constituées. Vous avez, allez, pas tout à fait le même nombre d'avocats. Vous avez 10 avocats pour les parties civiles. Vous en avez 3 pour les prévenus. Quand on examine les demandes de dommages d'intérêt, il faut bien les examiner. On les examine dans le cadre du procès pénal. Il ne faut pas l'oublier. Le juge pénal a la possibilité de disjoindre sur les intérêts civils. Mais par même jugement, c'est-à-dire lorsqu'il se sera prononcé, finalement, sur l'action publique. Donc, la question des intérêts civils est donc abordée à ce moment-là. Ça prend beaucoup de temps. Il y a du temps laissé aux parties civiles pour dire leur ressenti. Le ressenti, bah, qu'en pensez-vous ? Alors, tout le monde exprime sa douleur. Et quand on demande à la défense en fin de journée si j'ai des questions à poser, bien sûr, je n'en ai pas. Donc, voilà comment une audience occupe. Je ne parle pas des plaidoiries. À la fin, bah, les plaidoiries, vous avez 10 parties civiles qui prennent 3 jours, 4 jours de plaidoirie contre une journée pour la défense. Encore une fois, et j'en ai terminé, il n'y a pas de dédain, de mépris, certainement pas, vis-à-vis des parties civiles. Je crois simplement que le procès pénal, et vous le disiez tout à l'heure, les Français veulent du pénal, la France veut du pénal, c'est peut-être une tradition et sans doute une mauvaise tradition. Je fais observer d'ailleurs que quand on ouvre, quand le Concorde se crache, on ignore complètement s'il y a des responsabilités, on ouvre l'instruction pour homicide involontaire, ce qui n'est pas neutre, on pourrait l'ouvrir pour cause suspecte de la mort, non, c'est homicide involontaire. Et des gens jugent qu'il y aura des responsabilités à rechercher. Et quand un prévenu, quand une personne, quand un inculpé est pris dans la nasse, c'est fini pour lui. On ne tolérera plus, j'entends les parties civiles, qu'ils s'en sortent, d'où la levée de bouclier dont je faisais état tout à l'heure. Voilà ce ressenti, ce vécu, et pardon d'avoir été si terre-à-terre et peut-être trop militant, trop engagé. Encore une fois, il n'y a aucun mépris pour les victimes, mais je pense que l'action sur l'indemnisation pour les victimes peut très bien, et j'en ai terminé avec ça, s'exercer devant le juge civil et pas devant le juge pénal. Il y a toujours devant le juge pénal cet aspect de la constitution de partie civile sous son aspect vindicatif, et ça c'est très spécifique à la France, l'aspect indemnitaire, l'aspect vindicatif. Cette action porte bien son nom, vindicatif, vengeance. Merci.
Merci, Maître Dalmasso, de nous avoir fait part de votre point de vue avec cette franchise et en le présentant de façon très, très concrète qui nous permet de toucher du doigt la difficulté qui peut être celle de la défense face à la présence massive de ces victimes et de leur souffrance qui peut être incommensurable parce que ce qui est certain, c'est qu'elles ont subi un préjudice. Ce qui est moins certain, ce qui devra être établi par le procès pénal, c'est qu'il y a eu une faute et de surcroît une faute pénale. Il y a peut-être là un hiatus qui explique la façon dont vous nous avez présenté votre réaction. Je pense que cela va susciter des questions dans la salle, donc je me tourne vers vous. Nous avons pris un peu de retard, mais je pense qu'on a quand même 10 bonnes minutes pour engager une discussion entre vous et nos différents intervenants.
Merci. Je m'appelle Simon Forman, je suis avocat. J'ai une interrogation pour l'ensemble des panélistes qui est sur ne pensez-vous pas qu'il pourrait peut-être exister un malentendu en ce qui concerne les attentes des victimes à l'égard du procès pénal ? J'ai entendu dans certaines de vos interventions, notamment des sociologues de Madame Fillon, rapporter des propos de victimes, de jeunes femmes atteintes par le distilbène qui indiquaient la souffrance que suscitait chez elles la perspective de ces procès. J'ai aussi en mémoire un certain nombre de situations dans lesquelles de très longues affaires sanitaires, comme celle de l'hormone de croissance, finissent, ou comme des catastrophes aériennes, se terminent par des relaxes générales. Et j'ai vécu, moi, l'incompréhension et la souffrance que cela génère chez les victimes. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas un malentendu énorme sur ce que la justice pénale est en mesure d'apporter aux victimes, en particulier le procès pénal? Je ne suis pas certain qu'il soit le meilleur cadre pour atteindre une vérité, parce que la recherche de la vérité est filtrée par un certain nombre de contingences propres à la pénalité. C'est-à-dire qu'on recherche la vérité, non pas à partir d'une recherche de savoir ce qui s'est passé dans une situation, mais à partir et uniquement sous l'angle de la responsabilité individuelle des personnes poursuivies. Il y a ce premier filtre, on ne cherche pas, par exemple, j'ai été l'avocat d'un collectif de victimes dans une affaire qui concernait le génocide rwandais, il y a un an devant la cour d'assises de Paris. On n'a pas fait le procès du génocide rwandais, contrairement à ce qu'attendaient beaucoup de journalistes et de victimes, on a fait le procès de la personne qui était accusée. Et il n'est rien sorti de ce procès qui a appris quoi que ce soit à qui que ce soit sur le génocide. Le deuxième filtre qui déforme, à mon sens, la recherche de la vérité, c'est la procédure. Le procès accouche d'un récit. Je rejoins ce que disait M. Coccia sur le caractère parfois narratif du droit. Le jugement, c'est un récit sur ce qui s'est passé, mais c'est un récit qui est filtré. Les règles de procédure, les règles de recevabilité de la preuve, des éléments de preuve qui peuvent être reçus par des historiens qui écriront l'histoire des années plus tard, sont écartés par le juge parce qu'elles ont été recueillies de manière irrégulière, par exemple. Donc, il y a un certain nombre de filtres qui font que, mécaniquement, la justice pénale génère la frustration chez les victimes qui en espèrent voir sortir une vérité. Donc, je voulais savoir si, dans vos travaux de recherche, c'est quelque chose que vous avez constaté et à quoi vous réfléchissez.
Oui, peut-être sur ce malentendu du procès pénal, vous pourriez nous répondre, Monsieur Daudier, d'autant que vous avez suivi l'affaire de l'hormone de croissance, qui fait partie de ces grands procès, comme un certain nombre de procès d'accidents qui ont duré, la procédure a été extrêmement longue, 10 ans, 20 ans pour l'hormone de croissance, et avec des relaxes générales.
Par rapport à votre question, je pense qu'il faut se garder de deux globalisations. C'est-à-dire, d'une part, de globaliser la nature des attentes des victimes en général, et d'autre part, de globaliser les attentes elles-mêmes. Je voudrais venir sur chacun des deux points. Concernant les victimes en général, notre constat, en tout cas sur le cas sur lequel nous avons travaillé avec Jeannine Barbeau, qui est celui de l'affaire de l'hormone de croissance contaminée, c'est que les personnes qui se sont considérées comme victimes de ce drame ont été très partagées quant à leur relation au système pénal. C'est-à-dire, certaines des victimes sont allées chercher effectivement auprès des instances pénales et auprès du tribunal ce que vous dites, c'est-à-dire, et parmi d'autres attentes, une attente de vérité. C'est-à-dire, elles ont investi le dispositif pénal de cette attente de vérité. Mais d'autres victimes ont fait la même remarque que vous avez faite, c'est-à-dire, ont considéré que pour la notion de vérité qui était la leur, le système pénal et le dispositif pénal n'étaient pas le meilleur lieu pour faire manifester la vérité. Et on voit que certaines des victimes de l'hormone de croissance contaminée n'ont pas voulu aller devant le pénal et ont, comme vous le mentionnez, voulu chercher d'autres lieux, des lieux d'enquête, hein, des lieux d'enquête associative, hein, hors du système pénal pour faire manifester cette vérité. Donc, c'est ma première remarque. C'est-à-dire, je crois, et pour nous, sociologues, c'est un élément très important, dire autant je comprends que parfois des avocats ou des professionnels du droit aient la nécessité de globaliser ce qu'attendent les victimes en général et particulièrement concernant le système pénal. Nous, en tant que sociologues, je crois que ce qu'on constate, c'est la grande diversité, le partage des victimes elles-mêmes quant à la nature de leur positionnement par rapport au pénal. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que ce qu'il s'agit pour nous aussi, sociologues, de comprendre, c'est quelle est la place de cette recherche de vérité parmi les différentes attentes qui sont celles des victimes. Parce que, bien évidemment, pour certaines d'entre elles, la vérité est un objectif qu'elles recherchent à atteindre. Mais pour d'autres, ce sont d'autres objectifs qu'elles recherchent à atteindre qui peuvent, dans certains cas, s'avérer justement contradictoires avec cette recherche de la vérité. Et les victimes elles-mêmes sont très souvent ambivalentes quant à la variété des attentes qui sont les leurs par rapport aux institutions et notamment aux institutions judiciaires. Parfois, elles recherchent, effectivement, et c'est plutôt du côté civil ou du côté de l'action civile au pénal qu'elles vont rechercher une compensation ajustée à leurs dommages. Parfois, c'est la sanction du coupable qui est recherchée et qui doit être elle-même distinguée de l'attente de vérité, puisque certaines victimes attendent la vérité en se méfiant et en étant mal à l'aise au pénal par le fait que des personnes vont être condamnées, que c'est une chose différente que de condamner des personnes et de manifester la vérité concernant l'histoire dont elles s'estiment atteintes. Donc je voudrais faire ces remarques qui sont très exploratoires uniquement pour dire que, d'une part, c'est un enjeu des sciences sociales de sortir d'une schématisation de ce que veulent les victimes en général, et que c'est en quelque sorte le travail que nous faisons pour mieux comprendre dans le détail la diversification, les partages, les oppositions qui peuvent émerger parmi les victimes, y compris dans leur rapport au pénal, et d'un autre côté, pour indiquer que l'attente de vérité est sans doute l'une des attentes qui est très prenante pour certaines des victimes dans leur parcours, mais qui doit être elle-même mise en relation avec d'autres attentes vis-à-vis desquelles les victimes, au fond, composent les unes avec les autres dans des parcours qui sont, on le sait, très complexes.
Merci. Vous voulez répondre aussi, peut-être ?
Oui, je veux bien ajouter brièvement quelque chose. Enfin, moi, je souscris complètement avec les remarques de Nicolas Daudier pour avoir constaté la même diversité, les mêmes ambivalences, la même complexité dans l'affaire du sang contaminé. Juste ce que je voudrais ajouter en comparant avec les victimes du distil Ben qui sont engagées au civil, c'est vrai que le pénal a ce mérite d'ouvrir des instructions avec des pouvoirs extrêmement étendus qu'on ne trouve pas dans les autres formes du droit. Et de ce point de vue-là, je ne sais pas si le pénal est parfaitement ajusté à la recherche de la vérité. Manifestement non, mais en même temps, il y a ce pouvoir d'enquête très particulier qui, dans le cadre des accidents sériels, est spécialement intéressant pour essayer de refaire le chaînage de toutes ces décisions, ou souvent d'ailleurs plutôt de ces non-décisions, qui ont pu aboutir à des catastrophes. Enfin, dans le cadre des catastrophes sanitaires, c'est tout à fait important. Et effectivement, ensuite, c'est quant aux buts poursuivis par les victimes, ils sont extrêmement divers, et la sanction est loin d'être le seul but poursuivi, même si... Effectivement, cette notion est présente, mais c'est aussi une manière de se constituer éventuellement comme un possible tiers co-législateur pour des réformes à venir, etc. Donc là encore, les positions sont très multiples. Hein.
Merci.
Je voudrais juste te dire un mot peut-être pour relativiser un peu. Vous dites que seule la justice pénale est à même de...
Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que la justice pénale offre cet outil très spécifique qu'est l'instruction.
D'abord, il suffirait de donner, pourquoi pas, à un juge civil les mêmes moyens d'investigation, les mêmes moyens d'enquête.
Ils ne les ont pas.
Non, mais il suffirait, on est là dans la recherche des solutions, mais sans qu'il y ait de prévenu, sans qu'il y ait une personne qui soit dans le tableau, enfin, en l'occurrence, la personne à l'égard de laquelle des charges pèsent. C'est-à-dire que lui relèverait du pénal. Quant aux moyens d'investigation, si ça n'est que ça, donnons-les à un juge, qu'on appellera le juge lambda, qui aura les mêmes moyens d'investigation. Et puis, deuxième sujet, ça pose d'autres problèmes, parce que évidemment, il a le pouvoir de nommer des experts. Mais justement, d'aucuns s'insurgent contre ces pouvoirs exorbitants donnés aux experts judiciaires, notamment en matière de crash d'avion, et qui considèrent qu'il y a des structures ad hoc pour cela, pour rechercher les causes, pour empêcher que tel accident ne survienne à nouveau. Ça s'appelle notamment le bureau d'enquête-analyse. Il y en a en matière aéronautique, en matière ferroviaire. Et justement, ils se disputent la suprématie avec les experts judiciaires.
Donc, dire que le juge pénal dispose de moyens, ça n'est pas une fatalité, on peut la changer.
Juste simplement, pour finir, alors, indépendamment effectivement des équilibres qui pourraient exister, dont on pourrait discuter entre les moyens des victimes si on n'était pas au pénal et les moyens de la défense, on pourrait en prendre pour preuve le procès AZF, dans lequel la puissance de feu de la défense est énorme, et s'il fallait apporter des contre-expertises par les victimes elles-mêmes, elles n'auraient pas les moyens de le financer. Nous avons le ministère pour le faire et ça lui coûte suffisamment cher. Le déséquilibre, il existe aussi. Et simplement pour faire une remarque sur quelque chose, je suis toujours frappée par l'affirmation selon laquelle, à partir du moment où un procès se clôture par une relaxe et que le procès pénal n'avait pas d'utilité en matière non intentionnelle, dans ce cas-là, il faudrait le généraliser. Si on poursuit quelqu'un pour viol et qu'il y a acquittement, c'est que le procès n'avait pas lieu d'être et finalement pas d'infraction, pas de victime. Je ne crois pas que l'issue du procès et la solution donnée, y compris des relaxes, ne soient pas porteuses de leçons et utiles. Ce qui, à mon avis, est attendu, c'est l'existence du procès en lui-même et pas tellement l'issue du procès. Et j'en veux pour preuve, pour rebondir sur effectivement le Concorde tout à l'heure, et j'en terminerai là. Effectivement, les victimes allemandes n'étaient pas présentes lors du procès en France. Il est vrai qu'en Allemagne, la constitution de partie civile n'existe pas. Elles ne sont pas présentes. Cela dit, en Allemagne, le procès pénal existe, et y compris en matière de catastrophe. Il suffit de prendre le procès du train à grande vitesse des Schädel qui a fait 100 morts. Le procès pénal a eu lieu en Allemagne. Victime ou pas présente, ce sont deux choses bien différentes. L'existence d'un procès et sa solution éventuelle, favorable ou défavorable, j'allais dire de manière subjective pour les victimes, et leur présence à ce même procès. Je vous remercie.
Merci beaucoup à tous nos intervenants. Merci.